Tout a changé ou presque en Formule 1, mais heureusement, certaines bonnes choses ne bougent pas. On vous l'avait dit, la pistonnerie n'est jamais finie et on passera toute cette saison ensemble sur RMC. Valide ton paddock pass et entre dans le club. Ravi de vous retrouver les amis, quel bonheur de pouvoir parler F1 ici sur ce plateau, chez RMC, dans Paddock Pass, et de retrouver mes camarades, mes copains. Il y a une surprise, mais je vais déjà dire bonjour à monsieur Hamza Rahmani. Comment ça va Hamza?
Ça va et toi?
La forme, je suis très content de toi.
C'est un bon hiver?
Ouais.
Reposé?
Il était court. 90 jours, hein. J'ai compté, 90 jours d'arrêt pour la Formule 1 et nous on a pris le pli de revenir assez tard.
C'est ça.
Parce qu'on partait du principe qu'il n'y avait rien à dire sur cette révolution et qu'on attendait le premier Grand Prix pour critiquer.
Non, on est parti du principe qu'il fallait se reposer.
Surtout, t'as raison.
Surtout. Partir au soleil.
Et oui, partir
surtout
au soleil.
En Amérique du Sud.
Comme monsieur Brice Germain. D'ailleurs, ça risque d'être chaud entre vous deux. On connaît ton amour pour l'Argentine. Il est désormais...
Pour le football argentin.
Un oui, t'as raison. Faut le préciser parce que politiquement, c'est un peu chaud. Le plus brésilien des Savoyards, monsieur Brice Germain.
C'est vrai que ce feat n'était pas prévu à la base.
Ah non. Mais personne ne l'a vu venir.
Écoute, il est venu.
Il
fit extrêmement bien.
C'était bien le Brésil?
Oh, exceptionnel. Déjà, j'ai trouvé du fromage.
Wow.
Ouais,
ça
ouais,
a dû
ouais
coûter cher.
Hein?
Ça t'a pas coûté?
Absolument
trop cher.
Pas, c'est très très local. Okay. Donc attention, hein, ça vaut pas notre Haute-Savoie natale.
Ouais,
hein,
bien sûr.
Mais non, c'était exceptionnel. Les paysages sont fous, les gens sont fous. Je vous invite à y aller. C'est toutes les mauvaises choses que vous pouvez entendre dessus, vous les balayez et vous y allez, vous vous comportez un vous comportez intelligemment et vous verrez, c'est exceptionnel.
Invite-nous à Interlagos, on y vient. On
écoute, vient. C'est en cours.
Oh, ok, d'accord. Je note, rendez-vous à Interlagos, les amis. Et puis, aujourd'hui, c'est une émission spéciale, on va la faire à 4, parce que c'est un petit peu le mantra de cette saison 2026, c'est les Pistonnets Origins. Tu sais, l'originel, la première mouture,
la collection
la
vintage
première version, exactement, de Begin. Tu sais, genre, c'est pas Batman Begin, c'est Piston et Begin aujourd'hui. Monsieur Pierre-Olivier Valette est la nouvelle recrue de Paddock Pass. Il sera avec nous cette saison. Ça va, mon Pierrot?
Bah, ça va très très bien. Je suis très heureux de revenir avec vous pour toute la saison, pour le coup, et pas juste pour une petite émission une fois de temps en temps, machin. J'ai vraiment hâte de débriefer des Grands Prix de Formule 1 cette année avec vous, de me reprendre le bec avec Hamza, avec Brice, un peu moins avec toi parce que, bah, forcément, t'es le présentateur, donc voilà, mais je sais qu'on va avoir des bonnes discussions et j'ai trop hâte.
Et petite question,
ouais.
Parce que j'ai vu un clip il y a quelques semaines et je voulais juste savoir, tu te rappelles qui est le champion du monde l'année dernière de Formule 1?
Aucune idée.
D'accord, ok.
Je me souviens, en 2016 c'était Rosberg, mais
2025 non.
Ce clip, 2024, genre Norris en 2025.
25 ça s'appelle. Hein. Ouais.
Ce clip a hanté littéralement mon feed Instagram.
Ouais, moi aussi. Il y a
tout l'hiver,
il y a encore des
tout l'hiver.
Genre moi je m'en rappelle. Mec, oui je sais, moi aussi. Provoque les gars.
C'était il y a deux semaines.
Il était tellement bon sur cette take, on s'est dit, allez, on le prend pour la saison.
Non, mais d'ailleurs, tu sais, enfin, Pierrot m'a expliqué pourquoi il pouvait revenir avec nous.
C'est vrai.
Et c'est simple, c'est parce qu'Helmut Marko est parti. Il va de nouveau pouvoir l'insulter.
Bah, oui, j'ai plus personne à insulter, c'est ça le problème.
Voilà,
c'est
quoi, les ennemis de mes. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis.
C'est l'idée de l'association aujourd'hui. Juste pour vous expliquer, avant de commencer, rentrer dans le vif, c'est le Grand Prix, bien sûr, d'Australie qu'on va débriefer aujourd'hui, le premier Grand Prix d'une nouvelle ère, en tout cas, dans la Formule 1. Juste avant de vous donner le sommaire, avant de parler justement de rentrer dans le vif, on va vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner sur RMC cette saison. Il y aura un débrief après chaque Grand Prix. Et l'idée, c'est que pour faire tourner un petit peu justement ce plateau, avoir des avis qui sont un petit peu différents, se régénérer, se réoxygéner, on tournera à chaque fois avec deux chroniqueurs dont vous aurez la chance d'avoir le choix dans ce panel exceptionnel entre Hamza, Brice et Pierrot. Les Galactiques, on peut le dire. On est les Galactiques de la Formule 1 aujourd'hui.
Il y en aura toujours un sur le banc.
Ouais. Ah. Ouais,
non, mais justement, c'est pour avoir juste la
essence, toujours un reserve chroniqueur, quoi.
Ouais, voilà. Exactement.
C'est histoire de créer l'émulation, un peu.
Philippe Drugovic du sport.
Et puis de ne pas tourner en rond, de se renouveler à chaque fois en termes d'avis, parce que, enfin, il y a des grands prix où pendant quatre fois tu vas dire la même chose, et ça va être important de renouveler pour avoir des débats différents, là-dessus, plutôt qu'avoir les mêmes débats pendant quatre courses.
Et le charme, votre charme, les gars, je vous le dis, c'est que vous avez des obsessions qui sont totalement différentes, et donc, vous êtes très obsessionnels, et vos obsessions.
Une obsession chez Valtteri Bottas, là-bas. Je crois bien
mais qui est resté bloqué en 2020.
Seuls les historiques.
Seuls les historiques, on arrête.
Exactement.
Non, il y a une obsession pour les seconds pilotes qui n'ont pas choisi de se faire laminer par leur premier pilote.
Ouais.
C'est vrai.
Je ne vais pas te juger de ne pas avoir le talent de ton premier pilote.
Oh putain.
Bottas,
ça faisait longtemps
les hésitations.
Très bon. Bah, Kimi Antonelli.
Mais par contre, avec Raikkonen, t'avais pas
Raikkonen,
eu ce.
Raikkonen, ouais, mais Raikkonen, c'est différent.
Ah, bah voilà.
Il est juste mauvais.
Tout de suite.
On a eu la première version qui était top, et puis après le WRC, il est en vacances.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on les débats de 2020. On en est là.
En 2007.
Pardon, c'est vrai. Donc voilà, donc rendez-vous après chaque week-end de Grand Prix pour débriefer justement ces Grands Prix. On sera avec vous lundi à la mi-journée. Je vous en dis pas plus sur l'horaire, parce qu'il y a des petites choses qui pourraient arriver. Mais voilà, au pire, à l'heure à laquelle cette émission est sortie, bah, la semaine prochaine, elle sortira à la même heure. En tout cas, voilà, du côté de RMC. Et il pourrait y avoir plein d'autres projets en cours, en route, etc. Mais bon, on est bel et bien de retour et on est associé à RMC. On est très content. On est très content de faire partie de la maison RMC. Voilà, c'est un grand moment. Voilà, les amis. Tout de suite, on va parler quand même un petit peu de Formule 1. Le sommaire, les quatre enseignements. Vous avez pas vu Brice hors champ qui a fait F1.
On va parler d'aspirateur.
Les quatre enseignements de ce premier Grand Prix de la nouvelle ère. Tout a changé, on vous l'a dit. Et ça sera d'ailleurs la première question, est-ce que la F1 s'est pas un peu suicidée en 2026? On a mis un point d'interrogation, attention, il pourrait y avoir débat et le débat pourrait durer tout au long de cette saison. Vers une bataille, Mercedes-Ferrari, là on va s'intéresser au rapport de force, et bien justement sur l'avant du peloton. Samedi on a eu un peu peur, on s'est dit mince, est-ce que Mercedes ne va pas nous faire une 2014 bis? Et peut-être que dimanche vous avez repris espoir, on en parlera. La grande sensation, il s'appelle Arvid Lindblad, j'ai énormément de mal à dire son prénom et pourtant il va falloir vite apprendre parce qu'il a été impressionnant le môme. Et puis on parlera par contre d'un sujet qui nous pique tous et nous fait tous un peu mal au cœur, c'est cette catastrophe industrielle qui se dessine ou qui est déjà imprimée en 3D du côté d'Aston Martin. On parlera de ces relations un petit peu compliquées en ce moment entre Aston et son motoriste Honda. Bref, j'ai hâte qu'on arrive à ce quatrième chapitre parce qu'il
a fait du bien à Newell en caravane.
Ah oui. Et puis Fernando est tellement content de retrouver son motoriste préféré. Mais bon, on garde nos vies, on en parlera bien évidemment tout à l'heure. Les gars, juste avant, on regarde et on se remémore les résultats de ces premiers Grand Prix de la saison 2026, Grand Prix d'Australie qui a vu la victoire de George Russell, le premier doublé dans cette saison, pour McLaren. On rappelle aussi que les deux Ferrari suivent, Charles Leclerc 3e, Lewis Hamilton 4e, Lando Norris le champion du monde 2025, c'est lui mon Pierrot. Il a terminé à la 5e place mais très très loin, Max Verstappen 6e, Oliver Berman qui place une as dans le top 10, Lindblad qui rentre ses premiers points, Bortoleto également pour Audi et puis Pierre Gasly et cette bataille magnifique justement, enfin magnifique je sais pas mais très accrochée avec Ocon. Justement sur ces résultats j'avais envie de vous lancer très rapidement parce qu'on ne rentrera pas dans les détails, on n'en parlera pas, la belle bataille Gasly-Ocon et les premiers points de Audi. Si vous avez de l'inspiration, vous pouvez prendre une take, les gars.
En premier point des Audi, moi je trouve que c'est quand même relativement impressionnant parce que même s'ils ont récupéré Sauber et que sur la partie châssis il y a une habitude qui est là depuis quand même plusieurs dizaines d'années, le fait d'arriver en Formule 1 certes avec une architecture moteur qui est relativement proche de ce qu'ils ont pu travailler en endurance il y a quelques années déjà, faut quand même faire un nouveau V6, faut quand même faire un nouveau turbo et se poser la question de la grosseur du turbo ou pas, et chez Audi ils ont mis apparemment quand même plutôt un gros turbo, et faut aussi se poser la question des batteries, même s'ils ont eu aussi une implication en Formule E qui a potentiellement dû les aider. Mine de rien, malgré le fait que Hülkenberg ait pas pris le départ, potentiellement moi j'aurais peut-être mis les deux Audi dans le top 10 ou en tout cas à la bataille pour le top 10, et très content que Bortoleto ait marqué les premiers points de Audi en Formule 1 sur leur premier Grand Prix.
Exactement, on a croisé des représentants d'Audi là ce samedi côté France et ils étaient très surpris, on les a vus après les qualifications, ils étaient très surpris en tout cas des bonnes nouvelles qui sont venues à eux ce week-end. Les gars, Audi, Gasly,
oui, Audi forcément c'est un gros... un moment attendu, forcément, quand on a une nouvelle écurie, pas forcément une nouvelle structure, c'est forcément un moment, une curiosité et une agréable surprise. Je vais partir sur Oliver Berman, qui confirme quand même ce que l'on a vu de lui sur sa première saison. Et mine de rien, là, on va entrer dans un momentum de carrière où Esteban Ocon ne peut pas se permettre une deuxième année compliquée. Voilà, il y avait les circonstances atténuantes qui sont de vraies circonstances lorsque l'on débarque au sein d'une nouvelle structure. Pour lui, un moteur Ferrari, donc c'est aussi quelque chose d'inédit dans sa carrière. Mais effectivement, là, quand tu vois le début de saison d'Oli Berman et que tu vois la frustration générée par cette course par Esteban Ocon, attention pour la saison.
Et on n'oublie pas les propos repos d'Hayao Komatsu, notamment pendant la trêve hivernale. Hein. Ça place le ton pour 2026. Mon Brice.
Bah, mes deux textes, c'est Berman et Audi. Donc, je suis ravi de passer en troisième, du coup. je vais vous parler de Stroll.
Non, non mais tu peux parler d'autre chose, si tu veux.
Non, mais je veux juste réappuyer sur un point avec Audi, c'est que dans une révolution qui est à ce point-là moteur, le châssis prend certes de l'importance, mais quand même, enfin, la complexité du moteur et la complexité de cette architecture-là fait que c'est plus qu'impressionnant à mon sens, parce que c'est pas comme s'ils avaient récupéré le châssis de la McLaren de l'année dernière. Ils ont récupéré le châssis de Sauber, qui en début de saison était dernier l'année dernière. Donc de base, ils récupèrent pas non plus le meilleur des matériels, la meilleure des usines en termes de développement, et ils se positionnent en cinquième écurie sur ce Grand Prix de Melbourne, dans un Grand Prix où on a vu que visiblement être motoriste, c'est-à-dire être constructeur motoriste, ça avait quand même du poids.
Clairement.
Donc ça ouvre quand même des perspectives pour la suite, parce que quand tu vois tous ces moteurs Mercedes qui n'arrivent pas à performer comme le moteur mère parce qu'ils n'ont pas les outils pour le développer, eux ils ont les outils puisque c'est leur moteur. Donc potentiellement Audi part d'un socle assez haut pour peut-être aller dans le développement, en fait, se retrouver à aller titiller le plafond de verre du midfield et pourquoi pas les quatre top teams.
Ça, c'est un enseignement qu'on va pouvoir même se garder pour un peu plus tard dans l'année, parce qu'en effet, t'as raison, la question de l'intégration du moteur justement dans ces nouveaux châssis, c'est pour le moment, en tout cas, on a l'impression que ceux qui fabriquent châssis et moteur semblent avoir une petite longueur d'avance, mais on attendra bien sûr.
Sauf Honda, mais bon.
Mais c'est normal, Aston Martin et Honda, c'est
l'intégration a été difficile.
Ils n'ont pas parlé.
Exactement. Garde tes billes, on va en parler, on va se garder du temps justement pour parler de tout ça. Les quatre renseignements, vous les avez, on l'attaque, on tranche dans le vif, justement, on va poser le premier sujet. Quelque part, le sport a presque été un peu éclipsé, je trouve, à l'arrivée de ce Grand Prix, avec une question un peu pute, on peut se le dire. La F1 s'est-elle suicidée en 2026? Petit récap, justement, si vous n'avez pas suivi cette course hier, on a vécu cet hiver la plus grande révolution de l'histoire de la Formule 1, nouveau moteur, nouveau châssis, nouvel aéro, nouveaux pneus. On a vu plus de batailles quand même, il faut le dire, plus de spectacles. Est-ce que pour le coup, ce n'était pas un peu trop artificiel? C'est justement la réponse de beaucoup de viewers qui nous ont interpellés sur le sujet. Il y a quand même une petite stat sur les 10 premiers tours, on a 6 changements de leader entre Russell et Leclerc, mais c'est sur l'impression et sur notamment le côté artificiel que je vous attends. Du lift and coast en qualif, est-ce qu'on ne bafoue pas un peu l'ADN de la Formule 1? Est-ce qu'on désacralise pas l'exercice du tour rapide? Et je sais qu'on y est attaché dans cette émission, voilà pourquoi je veux votre avis. Trop de gestion, pas assez d'informations, je pense notamment aux viewers, aux téléspectateurs, parce que hier, c'est vrai que Julien Febraud et Jacques Villeneuve, faut leur rendre hommage, ont fait un boulot monstre pour essayer justement de vulgariser la compréhension des courses, nous parler justement des données auxquelles eux ont accès, mais nous, en tant que téléspectateurs, en fait, on n'en sait rien sur la régénération, sur le mode attaque, le mode boost, ou en tout cas, c'est trop rare, et je trouve que voilà, ça rend les courses en tout cas beaucoup plus incompréhensibles, et puis il y a surtout une question de sécurité, les gars. On a beaucoup, beaucoup parlé du super clipping. On a beaucoup parlé, vous savez, de ce mode ligne droite, le fameux SLM, pardon. Et beaucoup de pilotes se sont exprimés justement sur le sujet. Problème de sécurité, problème de plaisir. Franchement, toutes les générations de pilotes se sont attaquées à ce nouveau règlement. Que ce soit la vieille garde type Lewis Hamilton, Fernando Alonso, comme Max Verstappen, ou même le représentant de la nouvelle génération, Lando Norris.
Champion du monde 2025.
Que je te présenterai un petit peu plus tard, mon Pierrot.
T'as pris un peu bref, pour te le rappeler ou
voilà.
j'ai mis sur le crâne là.
Et puis quand même forcément la frayeur aussi, il faudra en parler de Colapinto hier, parce que bon, on sait pas trop ce qui s'est passé sur la procédure sur la grille, mais
Lawson
sur Lawson, tout à fait, mais on aurait pu se faire une immense frayeur, les gars. Il fallait que je détaille tout ça bien sûr pour en parler, mais est-ce que vous avez aimé ce premier Grand Prix justement de cette nouvelle ère? Comment vous vous situez par rapport à tout ça?
120 dépassements. Il y en a eu 45 l'an dernier.
C'est du flash résultat.
Ah ouais, on a triplé le nombre de dépassements, donc forcément le spectacle était au rendez-vous. Je pense qu'on a tous passé un excellent moment.
Je pense que
s'il y a des nouveaux qui viennent sur cette émission,
ils vont être surpris.
Ne le prenez pas au premier degré.
Non, mais enfin, habituez-vous à une échelle de Scoville un peu élevée. Non, je pense que tu fais référence aussi au poste de la F1 qui est juste après.
Ah, mais je fais totalement référence à ce poste.
je te laissais le bénéfice du doute. qui dit il y a 3 fois plus de dépassements que l'an dernier, c'est une réussite. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a plus de 300 réponses cachées sous le poste. Et que c'est que des critiques de fans qui sont cachées. Et en gros, le CM de la F1 hier a passé sa journée à cacher les réponses. Voilà, c'est pour dire que...
Il me semble même qu'en Formule 1, ils sont à 160 dépassements par course.
Bon, non, mais pourquoi pas arriver à 300 si...
C'est ça l'objectif, de toute façon. On a dit l'objectif, c'est de rejoindre la F1. Non, mais,
ouais. Les gars, sans faire dans le sarcasme, vous l'avez vécu comment? Parce que, en fait, j'ai l'impression que ce matin, c'est difficile d'être tranché. C'est difficile d'être tranché ce matin. J'ai l'impression que, d'un côté, il y a des choses qu'on a retrouvées, qu'on ne voyait pas en Formule 1, et de l'autre, il y a des choses gênantes. Bah, moi, franchement, je suis désolé, la bataille Leclerc-Russell, je suis entièrement d'accord, elle est tout à fait artificielle.
Donc, voilà.
Non, mais elle est tout à fait artificielle.
Mais oui, je suis désolé, non, mais en fait.
Laisse-moi finir. Elle est tout à fait artificielle, mais c'est un truc qu'on ne voyait plus en Formule 1. Les voitures n'arrivaient même plus à suivre. Là, t'as des mecs qui se sont doublés, redoublés. Alors, je pense qu'ils découvrent aussi le mode de gestion et d'utilisation de batterie énergie. Donc, ça va se normaliser dans les semaines à venir. Mais je suis désolé, c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu.
Justement, ça, c'est une crainte. Le fait que ça se normalise, parce que on va tous avoir toutes les écuries et les mêmes pilotes et les pilotes, pardon, vont avoir plus ou moins le même plan au moment de la gestion de la récupération d'énergie au fur et à mesure. En fait, plus on va avancer, plus on va savoir où l'utiliser et où ne pas l'utiliser. Donc en fait, on va rapidement, je pense et je crains, se retrouver sur des courses qui ressembleraient à ce que l'on a vu. Moi, il y a un point positif que je retiens de cette première course, c'est en tant que téléspectateur, ce que je ressens, et encore une fois, moi je ne parle que de ressenti téléspectateur, c'est le fait de retrouver des monoplaces qui semblent plus légères, plus maniables.
Plus agiles, ouais,
on les sent aussi parfois, les pilotes, pas loin de la perdre. Assez souvent, moi j'avais l'impression ces dernières années que c'était des monoplaces qui roulaient sur un tapis, c'était lisse, c'était propre, sur un rail, exactement. Là, c'est vrai qu'on retrouve cette sensation que moi j'avais dans ma jeunesse, où tu avais cette maniabilité et cette difficulté tu as l'impression quand même que c'est un métier. De piloter des voitures, et je parle même pas de ce qui s'est passé pour Colapinto au crash.
Appuyer sur les boutons, etc., pour gérer l'énergie, ça, c'est un vrai métier. Hein.
Niki Lauda, je pense, plus soit ton avis.
Show maintenant you the past. Ça que tu mentionnes.
Exactement. Maintenant, sur l'ensemble de la course, quand tu parles de... Tu prends en exemple ce qui nous a tous marqué sur cette course, Charles Leclerc, George Russell, les multiples dépassements pour la première place sur le début de course. Moi, je suis désolé. Lorsque je pense à Charles Leclerc, justement, sur les précédentes années, ce sont les batailles avec Max Verstappen, par exemple. Ça, c'était du pilotage, du pur pilotage. Là, sincèrement, sur le moment, j'ai pris du plaisir à avoir autant de changements de position, je vais être honnête. Mais lorsque tu y réfléchis deux secondes, est-ce la force du pilote ou est-ce tout simplement une gestion d'énergie différente entre George Russell et Charles Leclerc? Ça veut dire que oui, les pilotes vont peut-être davantage préparer les dépassements. On va peut-être mettre un demi-tour, un tour, deux tours, pour se dire, ok, à cet endroit, je vais le dépasser. Ça veut dire qu'à cet endroit, dans deux tours, je vais avoir besoin de tant d'énergie. Donc, je vais faire de la récupération en attendant. Cependant, il y a un aspect artificiel qui, moi, ne me plaît pas parce qu'aujourd'hui, je ne ressens plus la différence, le talent du pilote. Ça veut dire que Charles Leclerc, que Max Verstappen, ils ont des spécificités, que ce soit sur la défense ou sur l'attaque. Ben ça, on va les perdre parce que la gestion de l'énergie, ça va être beaucoup plus important.
J'ai une question parce que on met en valeur aussi les années 2010 avec le KERS. Le KERS, il y avait de l'énergie, il y avait le boost qu'on appuyait.
Hop, et pas tout le monde l'avait.
À partir de 2011, si.
Oui, mais ça met deux ans.
Oui, non, mais d'accord. Mais je veux dire, à la fin, tout le monde avait ce bouton de KERS et on pouvait effectivement faire de la gestion. Il y en a qui défendaient avec le DRS ouvert en appuyant sur le KERS, il y en a qui appuyaient. On a déjà vu justement ce qu'on a vu à Bahreïn entre Hadjar et Bottas, je crois, où dans la ligne droite, ils se décalent. Bottas s'envole une nouvelle fois et tu dis mais qu'est-ce qui se passe, etc. On a déjà vécu ce genre de scène du temps du DRS et du KERS avec les F1 des années précédentes, les années 2010 là. Ma question c'est du coup, est-ce que on dit que ces années-là sont de la pure gestion aussi quelque part, parce que mine de rien ça rajoutait un élément stratégique de pouvoir se défendre avec le KERS et de plus avoir de batterie à un moment donné parce que c'était 6 secondes par tour je crois. Ou est-ce que on est dans un cas différent aujourd'hui? Moi, le seul truc que je trouve différent, il y a deux choses par rapport à ça. J'ai beaucoup aimé justement ces années où on avait le KERS, etc. Ça donnait, je trouve, un peu plus de dimension stratégique en termes de pilotage. Et cette année, le problème qu'on a, il est double. On n'a pas les informations sur la batterie et le niveau de recharge, le niveau de déploiement, etc. Ce
qui rend illisible
les dépassements ou en tout cas les changements de position, puisque moi, je ne vais pas parler de dépassement pour le coup. Et deuxièmement, le deuxième problème qu'il y a, c'est que le pilote n'est pas maître du déploiement et de la recharge qu'il va faire. c'est grosso merdo assez automatisé, ça fait appel à de l'IA pour pouvoir justement être nickel sur la manière de recharger tour après tour, etc. Donc celui qui va être constant mais genre vraiment robotique va effectivement avoir une IA dans son moteur qui va voilà, faire en sorte que ça déploie au pile poil, au poil de cul comme il faut. Donc du coup en fait le problème est d'où pour moi, c'est effectivement on n'a pas les informations et on n'a pas justement donné au pilote la responsabilité de déployer de l'énergie et donc de pouvoir construire son attaque plus correctement, je trouve.
Et puis tu mentionnes le
Kers. Parenthèse, on a beaucoup comparé à la Formule AI. La Formule AI est bien mieux réalisée jusqu'à présent que ce que j'ai vu hier.
Tu mentionnes le Kers, mais le Kers, c'était 60 chevaux sur 6 secondes.
C'est vrai que c'est
là,
pas beaucoup.
C'est, là, c'est 5 chevaux, quoi. Oui. Et c'est pas sur 6 secondes, c'est à la merci de du besoin de la batterie. Donc ça change quand même radicalement les choses. Pour revenir à ta question, Manu, il y a quand même deux week-ends très séparés, je trouve, entre samedi et dimanche.
Ouais.
Samedi, moi, j'ai vu la mort de mon sport.
On a eu peur samedi. Hein.
Samedi, moi, j'ai vu la mort de mon sport, mais pour une raison simple, c'est qu'un tour de qualification a besoin pour moi d'héroïser son acteur.
Bien sûr.
J'ai besoin de voir des mecs qui sont à une limite au point où en fait ils prennent des risques que je ne suis pas capable de prendre. Qu'ils sont à une telle recherche du millième que ça en devient artistique. J'ai besoin de voir Fernando Alonso lui-même être complètement ahuri du tour de Max Verstappen à Jeddah en 2021. J'ai besoin de voir ça en qualification. C'est ça qui fait des tours de qualification mythiques. Ce Schumacher, ce d'Hamilton, j'ai toujours en tête moi celui de Kimi en 2005 à Monaco, désolé. Mais il y en a plein des comme ça. Celui de Max, encore une fois, le presque tour de Max à Jeddah. Samedi, voir que c'est le mec qui effectivement a le meilleur mode efficiency sur sa golf qui gagne la qualif, moyen. Mm-hmm. Très très sincèrement,
nul.
Non mais quand je dis moyen, c'est que vraiment j'en suis ressorti avec un
du dégoût,
une aigreur dans la salive, mais vraiment je suis allé me recoucher en me disant bah putain, c'est ça. Alors après le résultat n'aide pas non plus, avoir 8 dixièmes d'écart.
Ils ont oublié d'enlever quelques chevaux quand même chez Mercedes à mon avis, mais bon.
Ils auraient dû un petit peu
réduire.
Stefano,
quand même,
il aurait fait.
Bon, allez, non,
mais pour moi, c'est
sans
jouer
le jeu. C'est même indépendant du résultat. Ça veut dire que même si on avait par exemple trois pilotes qui se tenaient en un demi dixième pour aller chercher cette pole position, pour moi, ça ne change rien au fait que jusqu'à la dernière course de 2025, moi, j'étais subjugué parce que je voyais sur les caméras embarquées sur un tour de qualification. Voilà, tu sors de là, tu dis waouh. Et comme le dit justement Brice, là tu te rends compte du talent et de la prise de risque de ces pilotes. Quel est le point commun entre la Formule 1, le karting et j'ai envie de dire le motorsport même. On peut aller sur les deux roues si vous voulez. C'est que sur la séance de qualification, c'est le seul moment du week-end où le pilote est en osmose avec sa monoplace et que les deux sont utilisés à 100% tout en utilisant 100% des capacités de la piste. En tout cas, c'est le but recherché. Ensuite, dans la course de gestion, ça a toujours existé en Formule 1. Là, on est sur de la gestion électrique. Avant, c'était de la gestion pneumatique.
De la gestion de carburant avec les ravitaillements.
Exactement.
C'est peut-être là justement qu'il y a le plus gros écart.
Et peu importe, finalement, le fait que la Formule 1 soit aussi une course de gestion, ça a toujours existé et c'est même pas là le problème. Mais qu'en qualification, l'essence même du sport automobile et du motorsport, tu sois plus en capacité de ressortir de cette séance de qualification et de dire. Waouh, ah ouais quand même, parce que tu vois des pilotes qui perdent 40 km/h sur une ligne de droite, parce que tu vois, ou 40, 50 c'est selon, mais...
70 pour Aston, mais...
En fait, ouais, il n'appelle pas la ligne de droite,
70 à 0, ils étaient à 70 à 0.
Non, et en fait, sincèrement, tu te dis, mais dans quelle direction va ce sport? Alors encore une fois, ce n'est qu'un premier jet, une première séance de qualification, peut-être que tous ces modes de super clipping, etc., peut-être que dans 2 ans, on arrivera à un point où on sera en capacité de ne plus avoir ces séquences pour récupérer de l'énergie. Mais très sincèrement, aujourd'hui, moi, quand j'ai vu cette séance de qualification samedi matin, ouais, j'étais dégoûté.
Il faut rappeler deux choses. Déjà, il y a un tollé général auprès des pilotes et on va vous montrer quelques déclarations. En fait, ce week-end, on avait l'embarras du choix concernant les punchlines de pilotes concernant cette nouvelle réglementation.
En fait, cette réglementation a fait l'unanimité des pilotes contre elle.
C'est sauf ceux pour qui ça a pas marché. Lewis Hamilton était plutôt content hier.
Hamilton, il est content par rapport au résultat, mais sur la réglementation en elle-même, on l'a déjà entendu par le passé. Exactement. C'est, voilà, le seul, parce qu'Antonelli, c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup entendu. Mais oui, le seul qui est satisfait, c'est George Russell.
Quand le détenteur de tous les records, il te dit je bite rien, c'est quand même problématique.
Ouais, c'est quand même, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Juste un truc, les gars, sur l'aspect artificiel, et après, on viendra sur les pilotes. On viendra aussi sur une annonce qui pourrait être officielle dans les heures qui viennent, en tout cas, qu'on a appris ce matin concernant des réajustements. Sur l'aspect artificiel, les gars, il y avait quand même une problématique en Formule 1, même si je suis d'accord, ça reste artificiel. Il y avait une problématique en Formule 1, c'est que lorsque tu étais chassé avec le DRS, quelque part, tu n'avais aucune chance. C'est-à-dire qu'une fois que la personne qui était derrière toi était tombé en dessous de la seconde, il ouvrait son aileron arrière et derrière, il était parti, il passait et avec le dortier, tu avais du mal à justement repasser. Est-ce que là, d'offrir justement des outils, après c'est peut-être à peaufiner, peut-être à réfléchir, mais d'offrir des outils justement de défense aux chassés, est-ce que là, on a quand même pas un petit, parce qu'il y a toujours un petit point positif, c'est pas que je vais vous emmener tout sur le positif, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit point intéressant quand même sur...
Moi, je trouve que la réforme aéro, elle n'est pas si mal.
Bah là, tu vas le voir, les pilotes sont un peu inquiets par contre.
Mais c'est inquiet parce que c'est quand même assez dangereux quoi.
Voilà, c'est le début en plus. Puis il y a pas beaucoup, ils ont perdu 100 points d'appui ou un truc comme ça, ce qui est énorme.
Mais du coup, en fait, perdre de l'appui, moi je suis pas mécontent.
Oui, moi non plus.
De ça.
Oui, au contraire, c'est ce qu'il fallait. Hein.
Donc perdre de l'appui et en plus voir justement que il y a plusieurs outils aéro pour, enfin pouvoir voir qu'il y a pas de dirtier, en tout cas moins de dirtier, c'est toujours le cas avec une nouvelle réglementation. Mais quand même, ça a quand même été une très belle surprise hier matin. Je partage l'avis de Pierrot, je parlerai pas de dépassement, je parlerai de changement de position, parce que à partir du moment où tu actives un mode et que tu mets ton clignot droit, tu passes, tu te rabats. Bon, c'est...
En plus, ils ont les clignots maintenant, donc c'est pratique.
Oui, c'est vrai. Mais du coup, je...
Oh, d'accord. Tu as un seul téléphone, ne vous inquiétez pas.
Je suis pas si mécontent de ce que j'ai vu en course, tu vois. Mais encore une fois, vous me mettez pas en caméra embarquée. Caméra embarquée, enfin, il y a un truc quand même en F1 qui est important, c'est ça, quoi.
J'ai l'impression de voir l'Audi du Dakar. C'était très bizarre. C'est-à-dire que l'Audi du Dakar, en fait, c'est un moteur qui tourne plein régime tout le temps, mais qui avance à l'électrique. Donc en fait, quand ça freine, ça, c'est dans les tours à fond.
J'ai l'impression d'entendre Norris à Zandvoort 3 tours de la fin, quoi.
Donc,
t'as l'impression qu'il y a un problème moteur.
Non, mais c'est ça.
Mais bon, la régulation, enfin, je tiens quand même à dire, la FOM est pas si aveugle. Publiquement, elle est aveugle. Mais elle n'est pas aveugle dans ce qui se passe, puisqu'ils ont quand même déjà annoncé que dès la fin de la Chine, ils se pencheraient sur 3 options de changement du règlement. Ils laissent la Chine passer parce que Melbourne est très particulière par rapport à la batterie. C'était peut-être pas forcément le meilleur endroit pour voir ça.
Pire endroit.
Au Monza, on va voir quand même.
Jeddah.
Non, Jeddah, c'est peut-être
Mal non plus en termes de pour la batterie, ça va être.
Et en plus avec la visibilité, avec les mecs qui sont 40 km/h moins vite, ça va être génial.
Normalement, on l'aura pas.
Si y a Jeddah.
Oui, si on a Jeddah.
Mais du coup. J'ai perdu ce que je voulais dire, vas-y.
C'est moi, je suis désolé, je t'ai coupé la parole.
Non, mais c'est le but de l'émission, faut qu'on se coupe la parole.
C'est toi qui l'as demandé quand t'as signé ton contrat. Quelques réactions justement des pilotes, ça va te permettre de retrouver ta phrase, mon Brice. Max Verstappen déjà. Lui, ça a été vraiment l'artilleur, de toute façon, tout au long de cette saison.
Ça fait 15 ans.
Intersaison. Oui,
il était en première ligne.
Mais là, on va dire que, tu vois, il est. Je pense qu'il est à ce mouvement. Il doit être force ouvrière ou Sudrail, quoi. Tu vois, on va dire dans ce conflit.
J'aurais pu de l'autre côté, moi.
Max Verstappen qui dit ah bon, ça vous a plu. Si ça vous plaît, tant mieux. Mais moi, chez moi, je joue à Mario Kart. Personnellement, je n'ai pas vraiment apprécié la façon dont on pilotait. N'était pas très correct, disons. Au milieu du peloton, il se passait clairement des choses dignes de Mario Kart. Oliver Berman aussi. Déclaration intéressante parce qu'Oliver Berman, on rappelle, c'est un sophomore quoi. Et dans sa deuxième année, ce n'est plus un rookie, mais c'est un débutant encore un peu. Il dit c'est un peu ridicule pour être honnête, avoir un tel écart de vitesse avec un simple bouton et perdre autant dans la ligne droite suivante, c'est aussi très non linéaire. Donc ce que vous gagnez dans la ligne droite où vous utilisez le boost représente le quart de ce que vous perdez dans la ligne droite suivante. Et puis moi, la déclaration la plus intéressante à mon sens, c'est celle de Carlos Sainz qui, on le rappelle, fait partie bien sûr du syndicat des pilotes en Formule 1. Il dit ma plus grande inquiétude concernant la course, c'était le premier tour. J'ai eu l'impression que c'était vraiment périlleux avec le mode ligne droite, donc c'est-à-dire quand le flap avant et flap arrière est ouvert, avec tout le monde dans la ligne droite opposée. C'était vraiment dangereux et très difficile de contrôler la voiture dans l'aspiration. À mon avis, nous ne devrions pas avoir besoin d'aérodynamique active pour courir. Je pense que l'aéroactive et le SLM sont un pansement sur le problème du moteur. Et quand vous arrivez sur des circuits comme ceux-ci, où vous manquez cruellement d'énergie, vous vous retrouvez à devoir utiliser le SLM dans des endroits où vous ne devriez pas.
Il y a un point aussi important.
On a perdu 50% de l'audience.
Il y a un point.
Le SLM, on rappelle, hein, c'est vraiment quand les deux flaps sont ouverts, les deux DRS pour schématiser sont ouverts.
Il y a un point qu'évoque Max Verstappen que nous, en tant que téléspectateurs, bah forcément, on n'en a pas pris conscience parce que la réalisation ne nous l'a pas montré. Pardon. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé en milieu de peloton, tout au long de la course.
Ah, bien sûr.
De temps en temps, on avait une caméra embarquée sur Verstappen qui remontait une fois de temps en temps.
Mais ça peut être Gasly Ocon 3-4 fois.
On était principalement focalisé sur la course pour la tête. Mm. Mais sincèrement, c'est vrai que le propos de Max Verstappen sur ce qui a pu se passer en milieu de peloton, sur la course d'un Oli Berman, puisque tu nous as sorti la réaction de Berman, c'est vrai que je n'ai pas la moindre idée de ce qui a pu se passer, de comment ils ont pu vivre la course et à quel point c'est compliqué, parce que mine de rien, nous on se focalise sur la tête, ça concerne 2, 3, 4 pilotes, allez, on va être optimiste sur les courses, mais derrière il en reste 16 ou il en reste 18, et sur les 16 ou 18 il y en a 10, 12 ou 14 qui sont en lutte constante dans un mouchoir de poche, ou en tout cas j'imagine que la F1 aspire justement à recréer ce mouchoir de poche. Donc effectivement, c'est un peu l'inconnu et on n'a pas pu avoir plus de ressenti téléspectateur sur ce qui a pu se passer en milieu de peloton.
Par contre, il y a un truc, je ne suis pas d'accord, je ne sais plus qui disait ça, mais que tu ne peux plus faire la différence au pilotage. J'ai vu quand même quelque chose de la part d'Isaac, de Lewis Hamilton et de Max Verstappen. C'est la capacité à comprendre que si tu n'as plus de batterie dans la ligne droite par rapport à l'autre, tu vas pouvoir freiner plus tard et du coup emmener plus de vitesse, en tout cas par rapport à la balance de répartition du poids de ta voiture dans le virage. Max Verstappen l'a fait sur Alex Albon d'une manière phénoménale, où tu vois qu'en fait il le fait aussi sur l'Alpine de peut-être Colapinto, Pinto je crois, mais tu vois qu'en fait il a moins de batterie dans la ligne droite et du coup il va davantage laisser tirer son frein est beaucoup moins engager son dégressif et il va beaucoup moins en fait basculer l'avant de la voiture et il va se permettre de passer à l'extérieur tout en gardant de la vitesse pour derrière rester devant sur la ligne droite d'après. J'ai vu faire ça pour Lewis Hamilton dans la ligne droite de retour après le virage 1 et 2. Il a plus de batterie, Lewis Hamilton, au départ je parle. Il se fait passer par Lindblad et Isaac parce qu'il était passé au départ, et tu le vois derrière, sur le frein, il laisse aller beaucoup plus la voiture parce qu'il doit freiner, il peut freiner plus tard. Et du coup, bah, c'est quand même des choses où je me dis que ces pilotes-là, avec cette intelligence-là, vont pouvoir se servir du règlement et de leur intelligence de course et de pilotage pour faire des différences. J'essaie de prendre des points positifs parce que j'en ai vu quand même dans cette manière de piloter, et les plus intelligents à ce moment-là, ils ont une carte à jouer.
Mais ça, c'est pas du pilotage. C'est de la gestion.
Mettre ton frein au bon moment parce que justement tu as moins de vitesse, c'est du pilotage.
C'est pas l'essence même du pilote. Moi j'attends encore une fois, je vais pas revenir sur ce que je disais
en
début d'émission, mais les styles caractéristiques des pilotes sur la manière d'attaquer, la manière de défendre, c'est quelque chose que je n'ai pas vu et que je crains, on ne reverra pas de sitôt.
Et si ça avait été la réglementation Ricciardo, en fait.
attendons de voir, les gars, ce que ça va donner sur les prochaines courses. Ouais. Attendons de voir aussi la mise à jour réglementaire qui peut être faite justement après la Chine.
Il y a un autre point aussi qui me gêne, c'est que je suis en incapacité d'évaluer l'importance du capital pneumatique.
Ah oui.
Aujourd'hui,
c'est normal. Les pneus étaient de gamme trop dure.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Non, mais indépendamment de la dureté ou pas des pneus.
Non, mais dans le choix stratégique.
En fait, je ne sais pas à quel point le pneu est toujours aussi important ou pas par rapport à tout ce que l'on a à côté.
On en parlait chez Ferrari aussi, visiblement, parce qu'ils se sont rendu compte que les pneus hard pouvaient faire 300 tours. Donc,
on va en parler, les gars. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Mais là où t'as raison, on en parlait avec Pierrot justement avant que cette émission commence. Je me suis rendu compte en bout de 12 tours que Alonso était parti en soft, par exemple.
Non, mais dans en même temps, il comptait en faire 15. Donc.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est garde tes billes, je te dis. Mais tu vois, c'est vrai que c'est comme si t'avais plein de mécanismes, entre guillemets, de stratégie qui, et tu ne sais plus qui prévaut sur quoi,
et complexité,
et tu ne peux pas les lire en plus.
Illisible. Ouais, qui font que du coup, en fait, la course, on est abasourdi dans le bon sens pour certains de voir des changements de position en tête de la course ou même un peu plus loin dans le peloton. Mais pour ceux qui s'attachent un peu plus au pilotage, etc., on comprend rien et on comprend pas ce qu'ils font et comment ils le font, etc. Donc, la réglementation est arrivée peut-être trop tôt
pas assez éprouvé et a besoin d'ajustement. Donc ça va prendre 4, 5, 6 grands prix le temps que ça arrive. Et surtout, la Chine, je pense qu'on n'aura pas la même course du tout sur la manière de la, de, au niveau de la gestion de l'énergie, etc. Parce que c'est quand même quasiment diamétralement opposé. Malgré cette très longue ligne droite, je pense que...
Ça va souffrir au bout quand même.
Moi, je pense qu'on va revenir à quelque chose de plus habituel en Chine.
Ok. Eh ben, je pense. On sera là pour le voir. On sera là pour en parler dans Paddock Pass, votre rendez-vous F1 sur les antennes de RMC. Ça va être super, ça va être intéressant. On va se régaler. Parlons de sport un peu. Alors, déjà, la F1 s'était suicidée. On va pas dire tout de suite oui.
Non.
Mais on a quand même vu une corde au plafond, quoi.
Donc voilà. Une corde,
c'est la première. C'est la première. Et puis, il y a un point.
C'est déguisé, surtout.
Et puis, il y a un point positif aussi, par contre, et je vais aller très vite, c'est la fiabilité. Là, on retrouve des abandons sur des soucis mécaniques. C'est quelque chose qui a totalement disparu sur ces dernières années. Et ça, c'est aussi un point positif.
Ah, ça peut disparaître au bout de 4 Grands Prix, encore une fois, ça. Hein.
Peut-être. C'est l'un des rares points positifs que j'ai en ce début de saison.
2014.
Il nous reste 23 débriefs. Ça peut être un fil rouge, justement.
21, Manu, je pense. 21, je pense.
Oui. Mais ce n'est pas encore officiel. Et on est optimiste dans la vie. On a envie que les problèmes dans le monde se règlent. Deuxième enseignement, parlons sportif. Les amis, est-ce qu'on se dirige vers une bataille Mercedes-Ferrari? Petit récap, justement. Est-ce que Ferrari peut être le grand contender de l'ogre Mercedes, celui qu'on annonçait comme l'épouvantail? Alors samedi, il y a eu la gifle, bien sûr, de ces pilotes qui font du lift and coast sur un tour de qualif, mais il y a eu la gifle aussi infligée par Russell et Mercedes. 8 dixièmes, c'était l'écart entre les Mercedes et le reste du monde. Le départ tonitruant des Ferrari nous a redonné un petit peu espoir. On a eu 29 tours de bataille. Certains diront 29 tours de bataille, comment on dit ça,
De circulation.
C'est des relais de cyclisme.
Voilà,
c'est
ça. Exactement.
Devant, fait l'effort.
On vous laisse mettre le qualificatif que vous souhaitez mettre. Une concurrence aussi en retrait. Norris et Verstappen terminent quand même à plus de 50 secondes. Et puis revenir aussi sur comment on analyse la différence de rythme entre Ferrari et Mercedes, parce que il nous a semblé voir quand même qu'à la sortie de la VSC sur l'abandon d'Isaac Hadjar, il y a peut-être une petite erreur stratégique de Ferrari. C'est une question que je vous pose. On attend bien sûr des réponses. Pourquoi ils ne se sont pas arrêtés à ce moment-là? Et puis Andrea Kimi Antonelli, un rookie peut-être un peu trop tendre pour peser dans la lutte pour le championnat du monde. Ça, on aura l'occasion de le voir tout au long de cette saison, d'autant que la guerre du développement devrait être le juge de paix, l'arbitre de cette grande saison 2026. Alors les gars, c'est ça la physionomie 2026, on se dirige. Est-ce que Ferrari peut être un contender suffisamment, en tout cas consistant, pour ne pas vivre une hégémonie Mercedes-Russell?
Ça dépend. Ça dépend comment Mercedes se retient d'aller trop vite.
Parce que je pense qu'ils ont baissé le bouton entre samedi et dimanche.
8 dixièmes en qualif quand même. Hein. Je veux dire, je suis allé voir 2-3 petites stats. En 2014, j'avais pris la course de Bahreïn parce que les deux premières qualifs se sont déroulées sous la pluie. En 2014, on était à 9 dixièmes entre le reste du monde. Depuis 2006 et
avec un moteur Mercedes après. C'était Button.
Je crois que c'était Vettel, il me semble. Ah ou non, j'ai un doute. Je sais plus.
2015.
Bref, mais tout ça pour dire que en fait, c'est le deuxième plus gros écart en qualif sur un début de nouvelle réglementation, que ce soit châssis ou moteur. Donc déjà il y a ça. De deux, quand je vois la physionomie de la course, je me pose la question de savoir est-ce que Mercedes aurait pas pu prendre un tour à tout le monde. Mais je crois qu'ils ont pris un tour jusqu'au 7e ou 8e. Donc ça fait déjà quand même une belle pelletée de personnes, même s'il y a eu quand même quelques abandons. Tout ça pour dire que y a un avantage que Mercedes ne doit pas oublier, c'est qu'ils ont très certainement le meilleur moteur, mais il ne faut pas réduire cet avantage-là avec le fameux Adio, cette aide au développement et les jetons qu'on peut dépenser en fonction de savoir si on est vraiment très en retard au niveau du moteur vis-à-vis du benchmark, donc vis-à-vis du moteur Mercedes. Donc quel est l'intérêt pour Mercedes de mettre une volée à tout le monde, que ce soit en qualification ou en course, tant qu'ils sont devant? Voilà la question. Donc écoutez, non, ils vont éviter de mettre un peu trop les watts, garder leur ennemi très proche d'eux et puis en garder sous le pied au cas où il faille un petit peu attaquer pour éviter que tout le monde puisse développer mieux son moteur et revenir sur Mercedes.
Rappelez-vous que lors des essais de pré-saison, sur le deuxième jour de la dernière séquence des essais, Mercedes s'est focalisé pendant un temps sur des simulations d'arrêt au stand chaque tour. On entrait au stand, on faisait des arrêts et des simulations d'arrêt au stand avec 5 secondes de pénalité. Je pense que lorsque dans un changement de réglementation, alors qu'il reste une journée et demie d'essais de pré-saison, on en arrive à ce stade, à ce point de détail, c'est qu'on est généralement assez confiant sur la machine qu'on a pondue ces dernières années.
En avance sur le tableau de marche, comme a pu le dire Toto Wolff. Juste pour revenir sur ce qu'a dit Pierrot, les gars, maintenant qu'on sait que le règlement va changer au 1er juin. Est-ce que Mercedes a intérêt justement à limiter sa puissance, comme ça semblait être le deal d'ailleurs pendant la première semaine à Sakhir, quand on était enfermé dans ces histoires de compression, il y avait eu une sorte de deal informel avec Mercedes pour dire bon, vous baissez le bouton et puis on se met raccord. Mais maintenant que la mise à jour technique va être faite courant de l'été, Mercedes a tout intérêt à mettre le bouton à fond.
Ouais, après, rappelle-toi, l'année dernière, c'était je crois aussi en juin, McLaren, on attendait la fameuse TD qui allait révolutionner la saison. Au final, ça n'a rien révolutionné du tout. Donc au final, moi j'aurais quand même tendance à me méfier. Ça laisse quand même 3 mois à Mercedes pour trouver des solutions et anticiper les problèmes qui arriveront à ce moment-là. Sincèrement, j'attends rien.
Ils se sont mis d'accord sur une température qui, voilà, et puis ça va passer. Donc on verra.
Et si on parlait de piste?
Vas-y.
Un peu plus.
Arrêtons la politique.
Je suis quand même agréablement surpris et peut-être naïf de la différence entre le samedi et le dimanche, dans le sens où je me suis vraiment dit qu'ils allaient pas rader.
Mais Ferrari était quand même mécontent de la séance de qualification du samedi. Oui, mais peut-être que Ferrari, le rythme de la qualif aurait dû peut-être pousser Ferrari à être, je sais pas, à une demi-seconde par exemple.
Oui, c'était moins, je crois que c'est Charles Leclerc qui disait je m'attendais à être à 6 dixièmes, pas à 8.
Ouais. Oui, c'est ça, exactement.
Donc bon, il y a une marge de 2 dixièmes quand même, mais c'est pas ça qui fait que tu te retrouves en première ligne.
Mais sincèrement, au vu des qualités de cette Ferrari et des qualités de la Mercedes, je trouve pas déconnant d'imaginer qu'il puisse y avoir lutte si Ferrari gagne tout. J'ai pas dit victoire, j'ai dit lutte. J'ai dit possibilité de mettre Mercedes hors d'un fauteuil de soie. Quand tu vois déjà l'avantage départ qui risque bien évidemment d'être compensé à un moment donné. D'ailleurs, faudra quand même en reparler de ça, parce que dans le 0 à 200, il y a 5 secondes d'écart entre le meilleur et le dernier. 5 secondes.
C'est dangereux ça.
On est à 4 secondes 5 sur Sainz qui a dû voler le départ, sincèrement.
C'est Lawson le dernier ?
Oui, donc du coup, je t'enlève Lawson et Colapinto, je te mets Perez. Mm-hmm. Parce que Colapinto lui aussi est désavantagé.
Victime.
Perez aussi, non ? Alors du coup, je te prends Berman. Ouais. 7 secondes 4.
Berman qui a aussi bougé avant qu'il y ait eu l'extinction des feux.
D'ailleurs, il y a
eu.
Allez, je te prends celui d'avant. Verstappen, 7 secondes 3. Sainz, c'était à 4 secondes 5. Ouais. Donc il y a 3 énorme. Secondes d'écart. Donc,
c'est énorme.
Et évidemment, les deux pilotes Ferrari sont deuxième et troisième de ce classement-là. Donc déjà, ça, c'est quand même un avantage certain, puisque ça évite pour les pilotes Ferrari d'avoir cet imbroglio du premier tour qui peut leur faire mettre 4, 5, 6 secondes sur le fait de ralentir un petit peu au vu des entonnoirs que créent les virages, etc. Et ça peut mettre Mercedes dans cette situation-là, comme on l'a vu avec Antonelli. Donc déjà, ça, c'est une compensation qui peut te faire gagner 10 secondes sur un ou deux tours en faisant ça. Deuxièmement, la Mercedes est plutôt instable sur les freinages et plutôt instable sur la manière dont réagit le clipping. Mais Russell l'a dit, ils perdent un peu d'arrière en faisant ça. Endroit où Ferrari est extrêmement fort. La fluidité du train avant et du train arrière dans les virages est extrêmement bonne pour Ferrari à l'heure actuelle.
Ils ont l'un des meilleurs châssis, a priori, de la grille.
Et troisième point, l'aileron arrière Macarena. je vous rappelle qu'il est, il est fait pour un châssis qui n'est pas encore totalement prêt pour cette voiture, et visiblement c'est quand même une des manières fortes pour eux de compenser le désavantage moteur avec une réduction de la traînée et un système justement qui fait accélérer la voiture, extrêmement puissant et qui devrait être prêt dans les semaines à venir pour le tester avec le châssis global. Quand tu prends tous ces éléments-là, certes, Mercedes a plein de choses à faire valoir également, mais Ferrari n'est pas hors du coup. Mmh. On parle de domination à la 2014.
Non,
sincèrement, personne n'avait aucun moyen de lutter contre Mercedes. Aujourd'hui, il y a des moyens de le faire.
Pour des victoires. Là, on parle de victoires, on ne parle pas du championnat.
Victoires, ça donne le championnat.
On est sur une saison particulière où Frédéric Vasseur l'a répété en pré-saison. En fait, ça va être des blocs de saison que l'on va devoir juger parce que les évolutions auront un rôle trop important.
Voilà. Tout le temps.
En fait, la hiérarchie de la première course ne sera pas la hiérarchie de la dernière course. Si Ferrari Et on en sait quelque chose, c'était quand l'an dernier, ou il y a deux ans, où à la mi-saison, ils arrivent.
Ah, ils ratent pas l'évolution de Dimola.
Ah oui.
Ouais, c'est ça.
Il y a deux ans. Ouais.
Une évolution complètement ratée te tue ta saison, alors que l'évolution, elle t'a coûté quoi 4, 5, 6 courses. Là, ça peut être la même chose, finalement. Donc.
Dans un sens comme dans l'autre, hein.
Exactement.
Mercedes n'est pas à l'abri non plus.
Bien sûr, totalement. De même si Mercedes semble avoir une marge aussi par rapport à son moteur.
Voilà, exactement.
Donc, ils ont une marge qui peut permettre à Mercedes de un peu plus se rater sur une évolution que n'aurait pas Ferrari ou toutes les autres écuries. Et pour conclure, encore une fois, on va juste parler de bloc. Aujourd'hui, je suis concentré sur les trois premières courses. Et effectivement, par rapport à ce que dit Brice, je ne m'attendais pas à voir Ferrari autant en capacité de lutter. Maintenant, ce n'est pas parce que tu luttes à bataille roue contre roue que tu es en capacité de le faire sur le rythme de course, et on a vu que sur le rythme de course, lorsque Mercedes a du clean air,
3-4 dixièmes,
ça facilite quand même la vie de Mercedes.
3-4 dixièmes, disait Frédéric Vasseur hier.
C'est, alors, sur les temps autour, c'est 1,5 dixième sur l'ensemble de la course. Mm-hmm. Mais on s'attendait à beaucoup plus quand même.
C'est
1,5 dixième qui sont majoritairement pris sur les hards. Après, du coup, l'erreur, erreur ou pas, erreur stratégique.
Oui, d'ailleurs, les gars, alors,
moi, l'erreur stratégique, elle concerne pas le fait de aller sur un deux stop, mais de pas splitter les stratégies. Ça, c'est ça pour moi l'erreur.
Puis d'avoir que deux trains neufs quand tu commences une course, c'est un peu chaud quand même.
Bah oui, et surtout si derrière tu te dis on va faire deux arrêts, bon.
T'as un train de médium, un train de hard. Quand tu sais que Pirelli a mis deux gammes au dessus pour être sûr.
Justement, le plan de Ferrari, c'était de faire un seul arrêt.
Attends, ils ont fait. Ah oui, non, pardon.
Oui, le plan Ferrari.
Hamilton a raison, ils auraient dû splitter à un moment donné.
Ils auraient dû splitter au moins une des deux voitures.
Cheval de bataille.
Ah oui, oui.
Surtout avec la scoop derrière.
Ouais.
Non, mais je suis d'accord,
cheval
je te rejoins.
Pas cabré, ouais.
Oui, splitter, ça semble naturel.
Parce que Frédéric Vasseur nous dit hier, non, il n'y a pas d'erreur de stratégie, on a perdu parce qu'on avait un rythme qui était en deçà.
Ils n'avaient pas le choix.
Splitter, alors, splitter, si Ferrari split, on ne sait pas si Mercedes reste en piste ou pas à ce moment-là aussi. Tu vois, là, on est dans un.
Ouais, t'as raison.
Pour moi, c'est ça l'erreur.
Une théorie où on part du principe que les deux Mercedes, quoi qu'il arrive, entrent au stand. Peut-être que, quoi qu'il arrive, Mercedes entre au stand. Mais on ne saura pas si Hamilton entre au stand, si Antonelli reste ou pas en piste. Mais effectivement, le fait d'avoir un Hamilton qui rentre, un Leclerc qui reste dehors, ou inversement, Leclerc qui rentre et Hamilton qui reste dehors, ça peut aussi te permettre de réduire le rythme de course de Mercedes, ce qui peut profiter au pilote qui est resté en piste.
Ils font quand même un pari assez intelligent en soi, parce que c'est très facile de juger après, mais ils font un pari intelligent, c'est de dire que sur une nouvelle réglementation, il va y avoir plus d'une VSC parce qu'il va y avoir plus d'un abandon.
Et
la deuxième VSC est arrivée. C'est juste qu'elle est arrivée dans l'entrée des stands.
Manque de bol,
et au moment où ça arrive, ils viennent de prendre un tour, je crois, à Valtteri Bottas, et ils viennent de passer la ligne. Au moment où ils reviennent,
trop tard.
C'est trop tard.
C'était terminé.
Donc en soi,
le timing des VSC, il est quand même assez incroyable sur cette course, parce que chaque fois, les leaders ont déjà passé la ligne d'entrée des stands et étaient là, tu vois, voilà, les pauvres.
Mais en attendant, rappelons que ces 15 secondes d'écart entre Ferrari, Mercedes et Ferrari ne sont dus en soi à trois quarts qu'à la safety car, qu'à la VSC dont ont profité les Mercedes. Mais Leclerc ressort à 13 secondes 8 de George Russell après son arrêt en hard, et il finit à quoi, 15 secondes 8, 16 secondes. Donc au final, qu'est-ce qu'il a perdu en 40 tours de relais en hard? 2 secondes 5.
C'est toujours la même chose.
Est-ce que Russell a ralenti?
Exactement.
Est-ce que Ferrari aussi, d'ailleurs?
Voilà, on ne sait pas.
Et on aura l'occasion de voir. On rappelle.
Mais ce n'est pas si violent.
En 2022, même si on ne parlait que d'aéro, le concept qui semblait être le mieux né à la première course, c'était Ferrari. Et on s'est rendu compte, 6 mois après, que le potentiel était très limité, in fine. Donc, attendons de voir aussi, bien sûr, cette course au développement qui va vraiment nous intéresser, nous fasciner, en tout cas pour cette nouvelle saison.
Mais ce qui est hyper rassurant pour Ferrari, quand même, c'est la faculté. Là, c'est plus rassurant par rapport à ce que l'on a vu en pré-saison, mais le fait de pouvoir enchaîner les kilomètres. C'est un vrai point positif, que ce soit avec Ferrari ou avec AS aussi. Hein.
Il y a des super points positifs pour Ferrari, moi je suis d'accord.
Tu sembles quand même avoir, sur l'ensemble de la saison, une vraie promesse sur au moins la fiabilité. Voilà. Après, sur la performance et les départs. Oui.
Même sur l'approche du développement, tu peux avoir des motifs, même si on n'a pas encore de réponse, mais tu peux avoir des petits motifs de satisfaction sur l'approche qui a été appliquée par Ferrari par rapport à l'approche qui a été.
J'ai l'impression qu'ils ont un énorme gap.
Là, c'est théorique.
Non, mais moi, je vais vous dire.
La théorie, après, il y a la pratique et ça peut arriver, ce qu'on disait tout à l'heure.
Je suis désolé, mais là, Ferrari, cette année, je vois une équipe qui est dans l'action et qui subit pas juste le fait de
sa voiture. Non, mais sa voiture déjà aussi. Tous les ans, ils subissent leur voiture. Ils la pondent et ils disent, ah, oui, voilà.
Là, c'est trop bien. Là, tu les vois, ils arrivent avec des idées. idées, ils tentent des trucs, etc. Bon, seul problème, c'est effectivement pour moi de ne pas avoir splitté la stratégie, mais ils ont réfléchi au règlement en mode, ok, bah finalement, on va mettre un turbo plus petit, on va prendre des départs canons, mais ok, ça va nous limiter finalement dans notre peut-être vitesse de pointe, etc. Donc, du coup, eh ben, on va mettre notre aileron Macarena avec le pot d'échappement qui envoie l'air au-dessus. Bah, très bien, mais tu vois, au moins, ça a été vraiment réfléchi. Ils sont allés au bout de leur idée, et ça, pour le coup, c'est une Scuderia Ferrari que j'ai pas vu depuis très très longtemps, et ça me fait super plaisir.
Et bien voilà, la belle promesse, en tout cas les deux belles promesses, Mercedes et Ferrari, et on verra donc ce qui va se passer sur les prochains Grands Prix. On reste prudent dans une année justement où tout change. Les gars, faut qu'on avance, il nous manque du temps, on va, je pense, aller vite parce que c'est des réjouissances, c'est franchement la sensation de ce week-end, c'est Arvid Lindblad, donc le pilote britannique, il régale le môme, le seul rookie de cette grille 2026, et bien qui a performé, qui a surperformé. Racing Bull a d'ailleurs été la bonne surprise australienne, franchement on les attendait pas pareil fait après, parce qu'il nous avait proposé en essai justement de pré-saison où ça avait été assez neutre. Il met quand même la pression d'entrée sur Liam Lawson, il est pas loin de le taper même en qualif et en Q3. Premier Grand Prix, première Q3, premier point avec cette P8, de belles batailles avec les cadors, on pense notamment à Excel avec Lewis Hamilton, son idole. Bref, franchement, je pense qu'on va aller vite parce qu'on risque d'en parler. On risque d'en reparler de ce petit Lindblad, mais franchement, quelle sensation.
Alors, ou pas, hein.
C'est de ça.
Alors, donnez-lui un baquet, tu sais, tout ça. Non, il a fait une belle course, on va attendre. C'est très bien.
Oui, non, mais d'accord. Mais
on a le droit quand même. Moi, je vois.
Oui, bien sûr. Non, mais c'était une très belle course. Mais encore une fois, l'aspect artificiel des différences de rythme, je ne sais pas à quel point il a joué sur les 5-6 premiers tours d'Arvid Lindblad. Mmh. Alors, derrière, il fait une course très solide où il reste justement là où il doit être et il ramène des points extrêmement solides pour Racing Bull. Mais au début, alors, est-ce qu'il n'y a pas un avantage batterie vis-à-vis des autres? Parce que le départ qu'il prend quand même, il se retrouve quasiment en troisième position à un moment donné. Il va aller chercher la Red Bull d'Isaac qui, décidément, entre la première Racing Bull et la deuxième Red Bull, c'est vraiment un amour. Mais oui, moi, il m'a impressionné.
Ah, il a du fil à retordre à Lawson quand même tout au long du week-end.
Ah non, mais là, il y a beaucoup d'excuses. C'est ça qui est plus important.
La qualification, il va la chercher à la Q3 quand même.
Ah, ah oui.
Oui, oui. Non, mais c'est ça le plus important pour moi.
Est-ce que c'est un pilote qui pilote sans la pression d'Helmut Marko? Je pose la question. C'est tout.
À mon avis, voilà. Il faisait partie des chouchous. Simplement. Je pense, Lindblad, mais bon.
Bah oui, mais comme ça, il a pas besoin de faire un temps autour, nanana, Helmut vient dans mon bureau, tu vas voir comment ça se passait, etc. Non, bon, j'abuse.
Non, mais peut-être.
J'abuse un peu, j'ai vu un pilote, en tout cas, comme disait Brice.
Tu veux lui dire un message?
Helmut?
Non, tout va bien.
En allemand, mais... si tu veux, ça passera mieux.
Non plus. Je parle pas allemand. LV3 une année, ça suffit. Mais moi, j'ai vu un pilote qui était très jeu vidéo au début parce que j'ai trouvé qu'il attaquait énormément et ça se voyait même sans avoir les infos de la batterie que c'était celui qui déployait peut-être le plus et qui très vite s'est retrouvé sous la pression des autres qui n'avaient pas encore déployé la batterie au bout de 1, 2, 3 tours.
Norris.
Où ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai vu un pilote qui avait les crocs, qui est allé, qui a fait quelques manœuvres un peu F2, mais c'est normal, c'est son premier Grand Prix. Donc, bon, bah voilà, faut encore prendre la mesure de la chose. On va pas à la même vitesse, ça va quand même un peu plus vite. Il y a eu un petit coup de roue avec Lewis Hamilton, il y a eu un décalage un peu tardif avec Berman.
Sur la ligne droite.
Antonelli?
Sur la ligne droite?
Sur la ligne droite,
ouais. Moi, c'est Berman.
C'est Berman? Bon,
moi, c'est Berman.
Donc, voilà, très bon pilote à voir sur les prochains Grands Prix.
Hamza.
Non, mais bon, tu connais, de toute façon.
On est dans une émission de pisse froid, en fait.
Non, mais tu connais mon avis sur les rookies de manière générale. Ouais. C'est qu'un rookie, j'en attends rien la première année. Et s'il performe, c'est forcément positif. Donc, moi, j'ai été pas agréablement surpris. J'ai été stupéfait par ce qu'il a pu réaliser. Parce que, indépendamment même du résultat, c'est dès sa première course aussi la capacité qu'il a eue à se battre proprement, sans commettre d'erreur, mais sans non plus être intimidé par Hamilton, par Verstappen.
Par Verstappen, ça
il s'est battu avec Max Verstappen quand même. Qui est aussi l'écurie grande sœur, le pilote.
Et c'est là que tu sens qu'il n'y a plus Marko.
Il s'est battu là. Il s'est battu aussi face à Isaac. Il s'est battu face à. Et mine de rien, moi, qu'on le veuille ou non, sur une première course, ne pas commettre d'erreur et montrer autant de qualité, justement, le fait de ne pas avoir peur de se battre, parce que, encore une fois, se battre quand t'es derrière et se battre quand t'es devant, l'erreur devant, elle se voit tout de suite. Hein.
Ouais. L'erreur derrière. Surtout hier.
Surtout hier. L'erreur derrière, pas du tout. Donc. Encore une fois, moi, sincèrement, j'ai été bluffé. Ça ne veut pas dire qu'il va réaliser une grande saison. Ça ne veut pas dire, mine de rien, mais une gifle à Lawson. Lawson n'a pas existé par rapport à Lindblad sur ce week-end.
Ouais, s'inquiéter, ouais.
Donc, voilà, moi, je vois le positif et je ne tire que du positif d'un rookie sur une saison et encore plus sur une première course. Et c'est aussi la preuve, encore une fois, On n'avait pas besoin de Lindblad pour le savoir, mais c'est un argument supplémentaire que la Formule 2 est un championnat qui est juste injugeable. Mmh, voilà, parce que Lindblad en Formule 2, c'était loin d'être l'un des pilotes les plus impressionnants la saison dernière en termes de résultats purs. Lorsque l'on voit ces dernières années tous les pilotes que l'on a pu avoir qui n'ont pas performé en F2, qui sont arrivés en F1, qui ont performé, ou inversement, qui ont performé. En fait, il n'y a pas de règle.
Regarde Drugo et Théo, champions, ils ne sont pas là. Et tu as mis des mecs qui finissent 6e du championnat et ils sont
super. En fait, c'est pas super. Mick Schumacher, il a performé et finalement, ça a été compliqué en Formule 1. Isaac, il aurait dû être champion sans des problèmes mécaniques. Il arrive en Formule 1, il performe. En fait, il n'y a vraiment pas de règle.
C'est une mentalité aussi.
Mine de rien, je sais que Brice a rapidement été saoulé par ça, mais ces deux dernières saisons, la blague, le running gag autour de Antonelli.
Du classement F2
sur sa saison F2, quand on voit mine de rien sur une première saison chez Mercedes ce qu'il a pu faire, c'est pas transcendant, mais c'est quand même positif pour un rookie. Encore une fois, la F2 aujourd'hui est un championnat. Sincèrement, je me demande, quand tu vois encore ce qu'il a fait à Alex Deux, enfin bref,
donner à Durksen un baquet.
Non, mais sincèrement, c'est un championnat qui est injugeable. Et aujourd'hui, quand tu vois à quel point les jeunes pilotes arrivent en F1 sont préparés, franchement, chapeau, monsieur.
Petite stat pour Lindblad, quand même, c'est le troisième rookie depuis 10 ans. À inscrire des points lors de sa première saison avec Kimi Antonelli et Olivier Berman. La seule différence, c'est que les deux avaient une Mercedes et une Ferrari.
Complètement. C'est ça qu'il fallait.
Mais Berman avait des circonstances atténuantes. Ah ouais, Jeddah, il arrive le samedi, que le samedi matin, on va pas refaire l'histoire.
Arrêtez avec la mauvaise foi. Je rigole.
Non, mais en attendant, enfin, il a pas le même matos que ces mecs-là.
Je suis désolé de vous couper. Je pense qu'on aura l'occasion. Encore une fois, c'est une première émission. On rentre dans un grand marathon à Lindblad. Moi, je pense qu'on va en parler tout au long de cette saison. Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes pour parler d'un cas qui est Aston Martin. C'est une catastrophe industrielle. Je ne sais même pas par où commencer. Pour évoquer Aston, allez très rapidement le tableau. Récap des faits. L'accusé, levez-vous. Aston, est-ce que 2026 c'est déjà foutu? La bérésina des essais hivernaux, trop peu de roulage, trop de bris mécaniques, trop de gants jetés aussi. Adrian Newey,
de gants jetés.
Adrian Newey qui est sorti du silence jeudi. Parce que quand même, on a entendu tout le monde, hein, Mike Crack même. Tu vois, que je pensais qu'il était dans un placard, on l'a sorti du placard. Pedro de la Rosa était l'ambassadeur, le mec qu'on a entendu tout l'hiver, mais par contre, Adrian Newey, on l'a pas entendu. Il nous a expliqué trop peu de roulage, pareil, trop de bris mécaniques et trop de gants jetés. Bref, ça c'est pour la blague. On a compris qu'Honda avait été décimé, que le moteur est catastrophique, seuls 30% des effectifs nippons sont restés, preuve de la fuite des cerveaux du côté de chez Honda. Un problème de corrélation aussi entre la piste et l'usine, c'est un peu normal aussi, dû aux nouveaux outils, la nouvelle usine à calibrer, les vibrations et les pilotes qui trinquent, Alonso qui se dit incapable de faire plus de 25 tours, 15 tours pour Lance Stroll parce qu'il a été opéré des deux poignets, et puis quand même une problématique pour Aston Martin, le budget cap. Est-ce que ce retard de ce fait devient irrattrapable? On a même eu des rumeurs hier qui sont sorties autour d'un changement de motoriste en cours de saison. C'est Marc Genet qui a lancé la rumeur dans le paddock. Les gars, je vais pas revenir sur les différentes déclarations qu'on a commentées et qu'on a vues tout au long de ce week-end. Franchement, je cherche dans l'histoire un cas pire qu'Aston Martin. J'ai pensé à Lola, tu sais, Lola Visa Mastercard, là, oui, en 97.
Ils avaient
beaucoup moins d'oseille. Ça, c'est une certitude. Il y a peut-être Honda 2007. Enfin, grosso modo,
2015,
est-ce que
c'était moins pire.
Aston Martin peut se relever, les gars? On dit beaucoup qu'on est prudent sur les bons points qu'on veut donner, mais là, sur les mauvais points à distribuer, est-ce que là, on n'est pas sur une situation qui, de facto, semble être définitive?
Non, mais le mauvais point, il est à distribuer, parce que aujourd'hui, Aston Martin n'est pas prête, dès la première course, à jouer un championnat. Or, c'était l'objectif.
T'as même pas prêt à disputer.
Il y a une usine à, je sais pas, 150 ou 200 millions qui a été bâtie, 250 millions qui a été. Oh, on est plus à 50 millions près. Oh. Qui a été.
C'est notre oseille, Hamza, quand même.
qui a été bâtie. T'as sacrifié 2025, 2024. T'étais pas loin au début et finalement, en fait, on, à chaque fois, le discours c'est on sacrifie 2024, on sacrifie 2025 pour être prêt en 2026. Le projet. Il y a aussi Fernando Alonso. Il lui reste pas beaucoup d'années. Du coup, faut que Adrian Newey, tu vas chercher tous les meilleurs ingénieurs du.
Moi, je pense qu'ils sont en train de faire ce que Alpine aurait pu faire avec de l'argent.
Oh, mais Alpine n'est pas.
En fait, ils sont juste en train d'échanger les têtes. On a eu McCrack, on a eu Andy Cowell, on a eu Adrian Newey. On parle d'à un moment donné, on parlait de Christian Horner. On parle de.
Je mais sais c'est plus. Vrai
qu'il y a non,
c'est
Cardillé.
Andy Green, c'est ciao.
Non, mais t'as raison. Maintenant,
il s'appelle Dan Fallows, c'est ciao, etc. Oui. Alors, le problème du budget cap, c'est qu'il faut les mettre dans un placard, justement, chez Aston Martin Performance, ou je sais plus comment ça s'appelle. Parce que, du coup, voilà. Mais globalement, en fait, c'est des changements à la tête de l'écurie tous les ans. Donc, même c'est exactement ce qui s'est passé chez Alpine.
Alpine à l'anglaise. Ah non, c'est anglais.
Mais non, mais c'est pas pareil. Mais non, mais t'as raison. Puisque Newey nous a expliqué qu'il avait le cinquième meilleur châssis de la grille, mais que le problème c'était le moteur. Mais c'est exactement la même situation qu'Alpine, non? Ah non, c'est vrai, ça change. Ah pardon, excusez-moi.
Non, mais on va pas se lancer sur Alpine maintenant, mais on va attendre un petit peu quand même.
Tous les problèmes, c'est quand même la version verte. Hein.
Franchement, tous les problèmes que t'as évoqués entre l'intégration du moteur, la boîte de vitesse, problème de corrélation. Enfin, tu parles de quelle équipe? T'as l'impression. Tous ces problèmes là, si tu me dis que c'est Cadillac qui les a aujourd'hui, c'est normal. Cadillac est une nouvelle équipe qui a été créée, qui a été fondée, qui est partie de zéro en 6 mois ou en 9 mois. Aujourd'hui, c'est Aston Martin qui se retrouve dans cette difficulté avec tout l'investissement qui a pu être réalisé. Sincèrement, c'est inquiétant. Maintenant, il y a aussi des points positifs. Je ne sais pas si c'est positif, mais pas forcément pas négatif.
Ils ont Fernando Alonso.
Non, mais en fait,
ça
mine
peut
de
être
rien,
un point négatif.
Tous les problèmes que l'on voit, tout ce que l'on entend depuis 2 mois maintenant autour de ce projet Aston Martin et des difficultés de performer aujourd'hui, d'être en incapacité de finir une course, d'être... Mais mine de rien, ce que l'on a vu sur les essais libres et sur la qualif, c'est que lorsque cette voiture roule, elle rattrape son retard plus ou moins rapidement. Je crois que c'est Alonso qui disait, on a rattrapé 2 secondes sur les meilleurs, juste en roulant, en posant la voiture sur la piste, en roulant, entre les essais libres 2 et les essais libres 3. Alors effectivement, et évidemment, le plus compliqué, ça va être d'aller chercher les 5 derniers dixièmes, mais déjà qu'ils arrivent à ces 5 derniers dixièmes. Et lorsque l'on voit aussi que Alonso, avec des circonstances, parce qu'il y a des pilotes qui ont... Il était pas loin d'aller chercher une qualif en Q2. Voilà, tu te dis qu'avec tous ces problèmes, s'ils en sont là, si jamais ils les règlent, ces problèmes... Ça peut marcher, oui, mais c'est un grand si.
Ils ont une Lambo sur laquelle ils n'ont pas fait le parallélisme, en fait. Il y a du potentiel là-dedans, mais la voiture, elle est incapable de rouler correctement sur les standards pour faire une course.
Le problème d'Aston Martin, surtout, c'est qu'on est là à dire oui, alors ils ont des problèmes, ils ne peuvent pas rouler, mais ça fait un effet boule de neige de zinzin, parce que si tu ne roules pas, tu ne peux pas savoir quels sont les problèmes.
Bien sûr, à comprendre.
Ouais. Surtout. Une fois que t'as fiabilisé la batterie et les vibrations, etc., parce que les vibrations, ça part pas en claquant des doigts. Une fois que t'as ça, faut voir si le reste tient aussi encore. Parce que c'est bien d'avoir fait la suspension arrière sur les mâts de l'aileron, etc., mais il faut voir aussi les contraintes quand c'est à pleine vitesse, parce que c'est aussi ça le problème, c'est que Aston Martin, ils ont pas testé leur voiture en roulant très très vite, et donc ils savent pas si ça corrèle ou pas. Mais même s'ils ont des problèmes de corrélation depuis à peu près 2 ans, et c'est Newey qui l'a dit en arrivant l'année dernière, on sait pas ce que ça donne juste d'un point de vue performance et où est-ce qu'ils sont, s'ils sont si loin que ça ou pas. Et
ça
après
a pas l'air, hein.
Effectivement, oui, mais après effectivement faudra tout mettre bout à bout pour que ça puisse aller chercher les 5 dixièmes, ou en tout cas se retrouver en position d'aller chercher les 5 dixièmes.
Le retard qu'ils prennent, il est exponentiel. Parce que du coup, tu es déjà en retard, mais tu n'as pas les datas pour développer.
Et 3 tours bouclés par Aston Martin, c'est 30 tours pour une Mercedes. Ouais. Hein, ouais. Donc en termes de data, donc c'est énorme.
Exactement.
En tout cas, Alonso, ça va falloir dire au revoir maintenant. Enfin, pas à la F1, je dis ça, mais genre, va falloir qu'il se barre d'ici, quoi.
On verra.
Non, mais moi, j'espère qu'il va rester en
vrai. Il a 44.
Laissez-moi. La communication de Fernando Alonso en ce moment. Le gentil mec, c'est pour re-signer, on est d'accord. Hein. On n'est pas naïf sur ce plateau. Hein.
Non, je pense qu'il a une clause qui lui dit jusqu'à quand il a le droit de pas taper sur la curie.
Imaginez Max Verstappen l'année dernière avant les tractations. Il dit « Oh, allez, j'y vais ».
Non, mais imagine Verstappen à qui on a dit « Toto Wolff peut-être chez Mercedes, Verstappen ».
C'est vrai. Oubliez ça pourrait revenir. Attendons de voir ce que va nous offrir justement cette saison 2026, les amis. Ça ne fait que commencer. C'était le premier débrief de cette saison. On s'est régalé. Merci mon Pierrot, merci mon Brice, merci Hamza. Super de vous avoir dans cette émission. On va passer un super moment, une grande saison, on l'espère en tout cas. Et n'oubliez jamais qu'on ne tire pas de plan sur la comète. On reste très prudent sur ce que l'on dit. Et on se retrouve dès lundi prochain pour débriefer le Grand Prix de Chine. Ce sera la deuxième manche de cette saison. Bonne journée les amis. Et n'oubliez pas de continuer la discussion en commentaire. C'est le plus important. On est là pour ça. Ciao. We'll be right back.